Il est 18h et vous êtes bien à l'écoute d'Europe 1.
Aujourd'hui, nous aurons réalisé plusieurs milliers de vaccinations dans tout le pays. Ça va monter en puissance et ça montera encore plus en puissance à partir de mercredi, jeudi, vendredi, la fin de la semaine.
Le gouvernement accusé de lenteur passe donc à la vitesse supérieure dans la vaccination.
Accélération notamment grâce à l'ouverture de cette vaccination aux soignants. L'exécutif visiblement a entendu les critiques.
La Grande-Bretagne, elle, dispose depuis aujourd'hui de 2 vaccins. Celui d'AstraZeneca vient s'ajouter à celui de Pfizer-BioNTech.
Oui, et Boris Johnson, Premier ministre, doit s'exprimer ce soir. Il devrait annoncer un nouveau tour de vis, alors que l'Écosse, on l'a appris en fin de journée, se reconfine.
En France, on verra comment s'organisent les habitants des 15 départements sous couvre-feu à partir de 18h désormais.
Au sommaire également, la santé mentale de Julian Assange inquiète la justice britannique. Elle s'oppose à son extradition vers les États-Unis.
La Bourse de Paris a terminé ce soir en hausse de 0,68% à 5 588 points.
Et puis la tendance météo avec Anissa, bonsoir.
Bonsoir
Belle
Julien.
Année à vous, ma chère
Merci
Anissa.
Merci à vous aussi.
Un temps toujours bien froid demain.
Oui, avec de nombreuses gelées matinales, le thermomètre va baisser vraiment très bas demain matin avec de la neige en pleine. Et puis le retour du soleil dans le sud. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et face aux critiques sur la lenteur de la politique vaccinale française, le gouvernement décide donc d'accélérer la cadence.
Oui, le ministre de la Santé vient de le confirmer. Olivier Véran était à l'Hôtel Dieu à Paris où il a assisté aux premières vaccinations de personnel soignant.
Aujourd'hui, les médecins qui travaillent, et je les remercie énormément, ainsi que les infirmières et l'ensemble du personnel administratif, qui ont réussi à déployer 5 boxes parallèles pour accueillir des soignants qui viennent sur rendez-vous, me dit qu'ils sont capables de réaliser déjà plusieurs centaines rien que dans ce centre de vaccination de soignants par jour. Ils seront au-delà de 1000 vaccinations par jour d'ici à la fin de la semaine. Des centres comme celui-ci, ils s'en développent un peu partout sur le territoire national. Ce soir, c'est environ 27 centres qui disposent de vaccins et qui ont pu commencer à vacciner les soignants. D'ici demain soir et mercredi, nous multiplions par 4 le nombre de centres, ce qui fait qu'il y aura une centaine d'hôpitaux qui offriront la vaccination à leurs soignants, ainsi qu'aux soignants de ville.
Voilà, message très offensif signé Olivier Véran ce soir à l'Hôtel Dieu.
Alors on dit depuis quelques jours qu'Emmanuel Macron n'est pas content de la façon dont est gérée cette campagne de vaccination. Jean-Rémy Baudot, c'est la raison pour laquelle il a convoqué cet après-midi une réunion de suivi à l'Élysée ?
Oui, une réunion en cours comme une véritable mise en scène politique de l'action de l'exécutif. Actuellement à l'Élysée, autour du président, le Premier ministre, une partie du gouvernement concernée par le dossier vaccination et le monsieur vaccin Alain Fischer. L'objectif, c'est de mettre en musique l'accélération de la vaccination contre le Covid, mais aussi et surtout montrer que le problème est au cœur des préoccupations, que le sommet de l'État est à la tâche. Au séquençat du gouvernement, certains ont le sentiment d'être un peu piégés par la polémique. L'argument, c'est un marathon, pas un 100 mètres, répété depuis plusieurs jour, eh bien, il ne tient pas face aux comparatifs internationaux. Dans les couloirs de l'Élysée, de Matignon, on réclame donc du temps. On ne peut pas comparer à J+7, explique un conseiller. On a choisi de commencer par ceux qui sont les plus durs à vacciner, précise une autre. On fera des comparatifs européens à la fin du mois, promet l'entourage de Jean Castex, le Premier ministre qui devrait s'exprimer jeudi lors d'une conférence de presse sur le sujet.
Mais on a quand même un peu de mal à comprendre, Jean-Rémy, pardon, mais vous nous dites régulièrement qu'Emmanuel Macron a toujours le dernier mot dans les décisions.
Oui, c'est le cas et c'est d'ailleurs lui qui a validé la stratégie actuellement en place. Stratégie publiquement communiquée début décembre et à l'époque, disons-le quand même, personne n'y voyait rien à redire. Sauf que le jeu politique a fait son œuvre, la vaccination à la française semble dérisoire face à la stratégie allemande. Emmanuel Macron est donc dans une position délicate. Oui, son entourage a laissé entendre qu'il s'était un peu agacé, mais il ne peut pas totalement renier son propre calendrier. Il ne peut pas avoir l'air, par ailleurs, de ne pas écouter l'émotion face aux chiffres. Ce soir, il met donc tout le monde sous pression, explique un conseiller à l'Élysée. Voilà pourquoi il devrait y avoir de nouvelles préconisations après la réunion en cours, une accélération des centres de vaccination, dont parlait déjà d'ailleurs Olivier Véran, et peut-être aussi une réflexion sur le consentement. Ça ne marche pas très bien, on peut gagner en efficacité, reconnaît ce soir l'entourage d'Emmanuel Macron.
Merci beaucoup Jean-Rémy Baudot du service politique d'Europe 1. La France qui devrait pouvoir bénéficier d'un nouveau vaccin dans le courant de cette semaine, théoriquement celui de Moderna, qui va être validé par l'agence européenne dans les prochaines heures et dans la foulée, comme le confirmait en France, comme le confirmait à la mi-journée sur Europe 1 la nouvelle patronne de l'agence française du médicament Christelle Ratignier-Carbonel.
Et on y reviendra dans votre journal Isabelle à 19h. La Grande-Bretagne est-elle le premier pays au monde à autoriser le vaccin élaboré par le laboratoire AstraZeneca avec l'université d'Oxford?
Et comme ce fut le cas pour la toute première vaccination avec le vaccin Pfizer-BioNTech, les micros et les caméras étaient là, bien sûr. Pour le tout premier patient, il s'appelle Brian Pinker, il a 82 ans, il a grandi à Oxford et il est ravi.
J'ai appris samedi que je serais ici aujourd'hui. Je suis très content et fier d'avoir reçu le vaccin Oxford. Je n'ai rien senti. Ce vaccin, c'est tout pour moi. C'est la seule manière pour me permettre un retour vers un semblant de vie normale. Tout le monde doit se vacciner, cela va de soi.
Alors Anaïs Cordoba, vous êtes la correspondante d'Europe 1 à Londres. On vient d'entendre cette toute première vaccination. Donc en Grande-Bretagne, ce nouveau vaccin suscite d'autant plus d'espoir que le pays est très durement touché, avec 58 784 nouveaux cas en 24 heures.
Oui, la situation est très préoccupante. Cela fait maintenant une semaine qu'il y a plus de 50 000 nouveaux cas de Covid par jour au Royaume-Uni. Le nombre d'hospitalisations est 30% supérieur à ce qu'il était au pic de la première vague. À Londres, l'une des régions les plus affectées, un grand hôpital a dû opérer en mode médecine de catastrophe. Alors pour éviter une telle situation en Écosse, où les hôpitaux sont déjà sous pression, la première ministre écossaise vient d'annoncer un nouveau confinement avec fermeture des écoles et sorties autorisées uniquement pour raisons essentielles. Depuis le début de cette pandémie, je n'ai jamais été aussi inquiète, a-t-elle déclaré tout à l'heure. Boris Johnson, lui, va s'exprimer à 21h. Il devrait annoncer des restrictions drastiques, car le Parlement en congé jusqu'au 11 janvier a été rappelé pour siéger ce mercredi. L'opposition travailliste appelle à un confinement national. Cette dégradation de la situation sanitaire est due en grande partie aux nouveaux variants du virus découverts au Royaume-Uni. Il serait jusqu'à 70% plus contagieux.
Anaïs Cordoba, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Oui, on rappelle que la Grande-Bretagne a déjà vacciné plus d'un million de personnes. En France, vivre et travailler avec un couvre-feu avancé à 18h, les habitants de 15 départements expérimentent donc cette nouvelle règle depuis samedi.
Oui, et surtout depuis aujourd'hui, hein, avec le retour au travail et à l'école, puisqu'avant c'était les vacances. Alors Arthur Nbaché, vous êtes en direct, vous avez passé cette journée à Sarreguemines, c'est en Moselle, et vous êtes donc sous couvre-feu depuis maintenant un peu plus de 6 minutes. Comment ça se passe, Arthur ?
Alors ça dépend pour qui, Isabelle. Si vous êtes par exemple un parent d'élève qui vient récupérer son enfant ici au périscolaire de la Cité à Sarreguemines, rien ne change, ou presque, vous êtes accueillis comme ça par les animatrices Siam et Julie.
Et vous avez ces feuilles-là pour vous, au cas où s'il y a un contrôle et voilà. C'est pas évident.
Oui, parce que même
mais
pour
bon.
Vous qui habitez loin, ça peut être intéressant.
C'est quoi ce papier, mademoiselle, expliquez-moi.
Alors en fait, c'est un justificatif de déplacement. Pour après le couvre-feu, donc à partir de 18h.
C'est le seul changement, si j'ai bien compris, sinon ce couvre-feu 18h, ça...
Ah oui, pour nous, c'est le seul changement, on est là jusqu'à 18h30, comme d'habitude.
Au revoir, Sylvie. Au revoir.
Alors, vous avez aussi, ici, il faut le dire, des gens lassés, exaspérés, voire un peu perdus avec cette toute nouvelle règle. Le maire de Sarreguemines, Marc Zingraff.
Alors il y a des questions techniques, j'ai discuté avec une institutrice qui a l'habitude de passer du temps le soir dans son école à tout préparer et qui me posait la question, va-t-elle pouvoir rentrer plus tard que d'habitude ? Voilà, donc on n'a pas toujours réponse à tout et on va voir d'ici quelques jours, on y verra un peu plus clair.
Alors en cas de doute, vous pouvez normalement vérifier ce que vous avez le droit de faire ici après 18h en relisant tout simplement la fameuse attestation de sortie spéciale couvre-feu.
Merci Arthur Lambachet, en direct donc de Sarreguemines en Moselle pour Europe 1.
18h08, c'est une saga judiciaire qui a débuté il y a un peu plus de 10 ans maintenant, avec la publication par la presse mondiale de dizaines de milliers d'informations confidentielles et classifiées sur les activités militaires et diplomatiques américaines.
Informations diffusées par le site internet Wikileaks et son fondateur, l'Australien Julian Assange, ne sera finalement pas extradé vers les États-Unis puisque Marion Dubreuil, la justice britannique, refuse cette extradition pour raison de santé.
Oui, si la justice britannique a balayé les arguments de la défense qui relève de la liberté d'expression, elle a pris l'état de santé du fondateur de Wikileaks très au sérieux et notamment ses syndromes dépressifs et ses pulsions suicidaires. Elle a conclu après un mois d'audience et de nombreux rapports d'expertise que le système carcéral américain n'apportait pas les garanties suffisantes pour empêcher l'Australien de se suicider car il risque au vu des accusations d'espionnage et de conspiration qui pèsent sur lui d'être à l'isolement quasi total. Et c'est un soulagement pour sa compagne et son avocat français Antoine V.
C'est une personne qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 10 ans, qui a, dans les derniers mois, été privée de toute possibilité de voir ses proches, de préparer sa défense utilement, d'être soignée. Aujourd'hui, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est que nous n'avons pas à envisager un retour sur le sol américain et on espère que cette première décision va pouvoir en annoncer d'autres positives.
Le gouvernement américain a déjà fait appel. La question est désormais de savoir si l'Australien attendra son prochain procès derrière les barreaux ou en liberté surveillée. Pour le moment, Julian Assange est retourné dans la prison de haute sécurité de Belmarsh, dans la banlieue de Londres, avant une nouvelle audience mercredi pour statuer sur une éventuelle mise en liberté.
Merci Marion Dubreuil du service police-justice d'Europe 1.
L'hommage national aux trois militaires français tués la semaine dernière au Mali, cérémonie qui s'est tenue aux Invalides cet après-midi, très émouvante, présidée par le chef d'état-major de l'armée de terre.
Deux autres militaires ont trouvé la mort, on le rappelle, ce week-end, dans des circonstances similaires lors de l'explosion d'un engin artisanal.
Le politologue Olivier Duhamel quitte toutes ses fonctions dans un tweet. Il explique être l'objet d'attaques personnelles et indique vouloir préserver les institutions dans lesquelles il travaille.
Olivier Duhamel présidait notamment la Fondation nationale des services politiques, la FNSP, qui finance Sciences Po Paris, et le club Le Siècle. Il quitte également la présentation de l'émission Mediapolis sur Europe 1. D'après le journal Le Monde, il est mis en cause dans un livre à paraître jeudi pour des faits d'inceste commis sur son beau-fils à la fin des années 80. Les actionnaires de Peugeot et de Fiat Chrysler ont approuvé l'union des deux groupes aujourd'hui. Un mariage franco-italo-américain qui va donner naissance à un géant de l'automobile, quatrième groupe mondial en potentiel de vente. Stellantis comptera plus de 400 000 salariés. Il regroupera 16 marques, dont Citroën, Peugeot, Maserati, Fiat et Alfa Romeo notamment.
Et vous savez ce que ça veut dire, Stellantis ?
Je le sais, oui.
Ben oui, puisque c'est vous qui me l'avez écrit. Ça veut dire myriade d'étoiles, tout un programme. Et puis je sais que vous avez travaillé, Isabelle, le 31 décembre, contrairement à moi, simple feignant que je suis, puisque vous m'avez remplacé. Mais j'espère qu'en rentrant chez vous, vous avez dit adieu dignement à cette année 2020. En musique, forcément.
Et surtout que j'étais bien conseillée par Émilie Mazoyer, qui était à l'antenne toute la soirée, et par Angèle Châtelier. Bonsoir, Angèle.
Bonsoir.
Angèle, la plateforme française de streaming Deezer vient de publier le classement des chansons les plus écoutées le soir du 31.
Et oui.
Je vous avoue que j'ai pris quelques libertés avec ce classement, mais je valide le top 2 à fond, le top 3, le top 4, le top 5, et je vous laisse nous dire de quoi il s'agit.
Eh bien, sans surprise, déjà, la chanson la plus écoutée ce soir-là est aussi celle qui a eu le plus de succès sur les plateformes de streaming dans l'année. C'est Bande Organisée par le collectif de rappeurs marseillais.
En bande organisée, personne peut nous canaliser. Dans la zone, ça fume la fusée, pisté par les banalisés. Hasta luego, fais un, hasta luego, fais un deux, hasta luego.
Et alors, ce n'est pas étonnant, Isabelle, que...
Je précise quand même, il y a Anissa qui est, qui est tout feu, tout flamme, debout sur le micro et qui connaît les paroles par cœur.
Voilà, c'est ça. On sent que vous avez passé un bon 31.
Exactement.
Et c'est pas étonnant, Isabelle, que vous validiez celle qui est sur la deuxième place du podium, puisqu'elle est la chanson la plus diffusée en radio cette année. C'était donc difficile de passer à côté. Il s'agit de Blinding Lies du Canadien The Weeknd.
Un petit côté Dépêche Mode. Hein.
Ah ouais, complètement. Super album, je vous le conseille. Mais alors sachez que les écoutes sur les plateformes de streaming ont augmenté de 20% entre janvier et juin. Confinement et fermeture des disquaires oblige. Résultat, les Français se sont remis à danser sur de grands classiques de la chanson francophone. Ce qui se ressent dans ce classement puisqu'on retrouve Partenaires Particuliers, Les Démons de Minuit d'Image, mais alors aussi J'irai où tu iras de Céline Dion.
J'irai où tu iras, mon pays sera toi.
Alors là, c'est Isabelle Millet qui est en folie dans le studio.
Chacun son style.
Chacun son style, chacun son époque.
Et j'assume. Merci Angèle.
Merci Isabelle, on vous retrouve tout à l'heure à 18h30 pour le rappel des titres et évidemment à 19h pour le journal. Anissa, vous l'avez compris, est avec nous en plateau. Ma chère Anissa, vous nous annoncez du froid pour demain.
Oui, un temps hivernal, Julien, pour demain. Le ciel sera encore très gris sur une grande partie de la France. Sur la moitié nord, des chutes de neige encore en pleine. Alors comme aujourd'hui, la neige va tomber en ville, mais elle ne tiendra pas sur les trottoirs. Sur les côtes de la Manche, eh bien là, nous avons des averses dès le début de la journée qui vont perdurer tout au long de la journée. Le temps est très pluvieux au bord de la Manche. Sur le sud de l'Aquitaine et les Pyrénées-Atlantiques, toujours de l'eau. Le temps est humide. D'ailleurs, je me permets de vous rappeler que le département des Landes est toujours en vigilance orange crue. Sur le bassin méditerranéen, c'est le retour du soleil. Demain, profitez-en. Sur les Alpes, les Pyrénées, le massif central, de la neige des 500 mètres. Et puis les températures, on le disait, c'est hivernal demain. Sachez que nous avons des températures en ce moment qui sont 3 à 5 degrés en dessous des normales de saison.
Soit on est plus haut, soit on est en dessous.
On n'est jamais bon, hein.
C'est vrai, jamais dedans.
Hein. Alors demain matin, nous aurons moins 7 degrés à Gap, moins 4 à Aurillac, moins 3 à Belfort, moins 2 à Bordeaux, moins 1 pour Besançon, 0 à Toulouse, 1 degré pour Paris et 4 pour Ajaccio.
Mais dont 0 à Toulouse,
c'est frais,
c'est assez rare.
C'est froid, ouais. Et au meilleur de la journée, seulement 0 à 11 degrés, 0 à Rodez, 3 à Bordeaux, seulement 4 degrés pour Paris, 6 à Biarritz et 11 la maximale pour Bastia sous les nuages.
Bon, faut bien se couvrir, à part à Bastia, comme d'habitude.
Comme d'habitude.
Un grand merci Anissa, on vous retrouve tout à l'heure.
Europe 1, écoutez le monde changer.